Bien, bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Je suis François Moreau, éditeur à Bordeaux, éditeur Mobile e-book, et donc édite le livre, l'e-book en fait, le livre numérique La chance française de Benjamin Rossort, ici présent, qui va vous en parler, avec interviewé par Nicolas César, journaliste. Donc je suis vraiment ravi, je remercie beaucoup l'équipe de Mola, puisque j'ai appris que c'était la première fois que Mola faisait une signature pour un auteur qui n'a publié qu'en numérique. Donc c'est aussi le signe d'un changement un changement de paradigme en fait sur l'édition. C'est assez vu aussi, j'ai fait des communications sur Paris et ils étaient assez surpris de ça. C'est assez rare dans le métier encore, mais ça va se répandre, on espère, grâce à vous qui allez vous jeter en sortant, si vous ne l'avez pas acheté, sur les petits papiers, là où vous aurez un QR code, qui est un code qui permet d'aller directement avec votre smartphone ou votre tablette sur le site de Mola pour télécharger l'e-book. L'e-book a certaines particularités qui permettent, en fait, quand vous le lisez, de participer au débat en allant avec des liens sur un site dédié. Mais Benjamin va vous en parler mieux que moi. Je vous souhaite une bonne conférence.
Merci François Moreau. Donc je rappelle que vous êtes éditeur, voilà, avec Mobile e-book, donc qui a été créé en 2013. Et comme vous le soulignez, c'est justement la première fois que Mola organise ici une signature d'un auteur qui a écrit uniquement son livre sur le numérique. Alors on va passer à peu près une heure ensemble. On va vous laisser évidemment la parole. On va vous présenter tout d'abord qui est Benjamin Rossort, quel est un petit peu son parcours, comment il en est arrivé là à écrire ce livre justement sur la chance française, un nom assez évocateur. Et dans un deuxième temps, évidemment, on va vous parler du livre, de ce qu'il y a dedans, sans trop vous en dévoiler quand même le contenu, et puis évoquer avec vous un petit peu les thèmes abordés, ce que ça vous évoque. On va commencer un petit peu par le parcours de Benjamin. Donc Benjamin, parce qu'on se connaît bien, je suis journaliste et lui aussi a été justement journaliste pendant 10 ans, correspondant à RMC notamment. Qu'est-ce qui déjà t'a donné envie d'écrire et d'être journaliste ?
Alors d'être journaliste, l'envie de traiter l'information et d'écrire en tout cas cet ouvrage, l'ennui dans le train. C'est-à-dire que quand vous êtes chef d'entreprise à Bordeaux, puisque c'est ma vie d'aujourd'hui, vous allez chercher des affaires à Paris et donc vous passez beaucoup, beaucoup de temps dans les trains. Et donc vous passez 3 heures quand tout se passe bien, 3 heures et quart, et plutôt 5 heures quand ça se passe mal, c'est-à-dire quand il y a un chevreuil qui a décidé de se jeter sous les roues et que votre train met beaucoup plus de temps. Et donc effectivement, au départ, j'ai commencé par essayer de tromper mon ennui dans le train, en prenant des notes et en ayant des réflexions. Sachant que c'était, j'ai commencé à l'écrire, cet e-book, en janvier 2014, c'est-à-dire une période assez particulière pour le climat, on va dire, en France.
Alors, il faut savoir aussi que, justement, le train, c'est un lieu de réflexion, c'est là aussi où on se pose, au sens propre comme figuré, c'est-à-dire qu'on est assis, on est là avec aujourd'hui des objets connectés, mais c'est le moment où on peut poser une vraie réflexion. On coupe un peu le téléphone, on observe aussi le monde qui est autour de nous, on réfléchit. Donc c'était le lieu propice justement pour écrire.
Alors je trouve effectivement que c'est un lieu propice pour écrire. Alors ça peut aussi être un lieu propice pour échanger, hein, et pour discuter avec ses voisins. Mais au bout d'un moment, on peut aussi s'enfermer dans cet écran d'ordinateur avec un casque sur les oreilles et avec... en fait, l'idée qu'on commence à écrire au début du voyage et que 3 heures et quart plus tard, on a fait quelques pages et on avançait.
Alors Benjamin, donc, comme il le disait tout à l'heure, aujourd'hui chef d'entreprise. Depuis 1998, il a créé sa première entreprise qui s'appelle Web Report, qui produit des contenus éditoriaux pour des sites internet. Et ensuite, il a créé donc récemment, là, en août 2014, une autre société, toujours à Bordeaux, qui s'appelle Transmissio, et qui, là, vise à protéger, aider les chefs d'entreprise à protéger leurs secrets numériques, notamment tous les fameux mots de passe qu'on a, c'est-à-dire que dans une entreprise, aujourd'hui, vous avez souvent, pour des chefs d'entreprise, une 20aine de mots de passe, et si c'est maîtrisé uniquement par une personne, vous avez quelques soucis si cette personne a un accident ou autre, ou est absente, voire décédée. Et donc voilà, c'est l'objet de la deuxième société. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer après du monde du journalisme à l'entreprise? Qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'être journaliste en tant qu'observateur de notre société?
En fait, j'explique ça un peu dans l'ouvrage, mais en l'occurrence, moi, j'ai été journaliste radio. Ce qui m'a permis d'être journaliste radio, c'est une décision de François Mitterrand en 81 de libérer les ondes avec les radios libres. C'est-à-dire que je fais partie de cette génération qui a réussi à faire de la radio, encore adolescent, avec l'arrivée des radios libres, et donc à intégrer en fait une industrie, un média, la radio, en étant déjà considéré à l'époque comme les gens qui allaient tuer les entreprises qui existaient. En clair, quand je suis arrivé à RMC ou à Radio Monte Carlo, ça s'appelait comme ça à l'époque, quand je suis arrivé jeune journaliste, je faisais partie des gens qui allaient casser le beau jouet qui existait depuis des années avec les radios périphériques et les radios publiques, parce qu'on allait augmenter de la concurrence avec les radios libres. Donc on était en fait déjà les méchants. Et puis 10 ans plus tard, j'ai décidé d'arrêter la radio pour aller sur un autre endroit qui était là aussi une friche, qui était Internet. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de transformation digitale des entreprises en 2015, mais il faut savoir que Internet existe depuis 1995. Donc il se trouve que le gouvernement aujourd'hui en fait une priorité nationale, mais il aurait pu, on peut considérer qu'il aurait pu la faire 20 ans plus tôt. Hein, mais bon, c'est déjà bien qu'il considère
surtout
que c'est
Internet vient de l'armée.
Surtout qu'Internet vient de l'armée et de l'université. Voilà, et donc c'est toute cette histoire-là, c'est toujours des histoires de comment j'arrive à vivre, à agir, à travailler dans un monde un peu fermé, un peu installé, en utilisant des chemins de traverse qui sont au début la radio libre et puis après en 99 Internet.
Qu'est-ce qui t'a marqué justement dans le conservatisme que tu décris dans le livre des milieux? Voilà, à l'époque, c'est l'émergence des radios libres, 81, je pense que certains s'imaginaient que ça n'allait pas forcément durer, que cette jeune génération qui émergeait, finalement, c'était un peu un feu de paille. Qu'est-ce que toi, tu as découvert voilà, sur cette façon de se protéger, entre guillemets, pour protéger ses places?
Alors c'est ça qui est très impressionnant quand on y réfléchit, c'est qu'on se retrouve avec des corporations ou des industries entières qui ont l'air de ne pas y croire. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un monde qui change, un monde qui évolue, mais des blocs entiers décident que non, ça n'arrivera pas. Et donc, on continue une sorte de super-tanker qui, sur son air, continue à avancer tout droit, pendant que des petits esquifs, eux, vont chercher à manger, vont chasser dans des endroits un peu inexplorés. Et pendant ce temps-là, le super-tanker continue. Et puis, les petits esquifs vont finir par créer une vraie activité autour. Et c'est cette activité-là qui finit par gagner. Et le super-tanker va s'échouer sur sa plage.
Et
t'as une baleine.
Et sur le plan journalistique, il y a des personnalités qui t'ont marqué ou des événements comme ça, toujours un peu sur ce thème-là, qui t'ont plus particulièrement marqué?
Sur le plan politique, ce qui est étonnant, c'est que là aussi, le personnel politique réagit de la même manière. C'est-à-dire qu'en clair, il semble ne pas vouloir voir que le monde change. Alors, sans doute parce que c'est plus pratique, c'est plus simple. Mais en l'occurrence, on se retrouve là aussi avec des politiques qui n'ont pas l'air d'avoir envie d'accepter ce monde qui change. Alors, on le voit bien dans l'Internet, hein, tous les gens qui font des choses aujourd'hui dans l'Internet ou dans ce qu'on appelle le collaboratif, le coworking pour ce qui, par exemple, pour la communauté du numérique à Bordeaux, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, on se rend bien compte que le politique ne comprend pas très bien pourquoi ces communautés arrivent à s'autogérer. En l'occurrence, ce n'est pas du tout dans leur modèle. C'est-à-dire que le politique doit, le fonctionnement français, c'est le politique dit qu'il faut faire quelque chose, citoyens vont le faire, et le politique récupère ce qui a été fait par les citoyens. Le fait que des citoyens disent on fait des choses, on ne vous demande même pas votre avis, on ne sait même pas si ça vous intéresse. D'ailleurs, nous, ça nous intéresse, nous, on a envie de le faire. Ça, le politique ne comprend pas et donc tente de le récupérer juste après. C'est le fonctionnement de maintenant. Alors, ce n'est pas grave, parce qu'au final, on gagne. Faut juste accepter qu'un politique dise « c'est moi qui l'ai fait alors qu'il ne l'a pas fait ». Mais ça aussi, ce n'est pas grave. Alors, moi, ça ne me fait pas de mal.
Et Internet, quand tu es arrivé comme chef d'entreprise, ça a changé aussi complètement ta vision. Tu es rentré dans un autre monde. Qu'est-ce que tu as découvert à ce moment-là en tant que chef d'entreprise par rapport au monde institutionnel? Quels sont un peu les rapports qu'on peut avoir en plus en étant dans Internet, Internet qui émergeait tout juste hein, en 98.
Alors, en 98, les dinosaures d'Internet, parce qu'on s'appelle comme ça, on est des dinosaures d'Internet, en fait, on a surtout découvert un autre mode de pensée et de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a découvert le communautaire. En France, le communautaire, c'est pas bien. Hein. On l'entend beaucoup. Hein. C'est-à-dire, oh là là, le communautaire, il faut surtout lutter contre le communautaire. Nous sommes dans une république une et indivisible. Et donc, le communautaire, c'est pas quelque chose de bien. Et en l'occurrence, avec Internet, nous, on a découvert la communauté. Quand j'ai commencé sur Internet, il y avait des forums de discussion qui fonctionnaient avec des règles qu'on ne connaissait pas du tout, qui étaient notamment un forum de discussion est autogéré. Il y a une régulation qui fonctionne extrêmement bien par les membres eux-mêmes. Et puis, de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a quand même un administrateur. C'est intéressant, le fonctionnement du forum, parce qu'on a un administrateur, et l'administrateur, il est seul maître à bord, c'est-à-dire que c'est Dieu. Alors, quand je dis ça, on me dit, ah ben, disons, c'est un peu archaïque comme façon de fonctionner. En fait, c'est archaïque et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que pourquoi l'administrateur d'un forum de cette communauté est intouchable, c'est parce que c'est lui qui met à disposition le matériel et l'espace qui va permettre à la communauté de s'exprimer. Donc c'est normal qu'on le protège. Et donc on s'est découvert comme ça des fonctionnements, qui étaient des fonctionnements communautaires, collectifs, d'échange, d'intelligence collective. On ne savait pas encore que ça s'appelait comme ça, maintenant on a mis un nom dessus. Et c'est vrai que ça a été extrêmement nouveau pour moi, qui venait d'une entreprise avec un fonctionnement vertical, avec une hiérarchie, avec le tapis roulant de la carrière qui marchait notamment sur l'âge. Là, on se retrouvait à travailler avec des gens qui étaient performants et donc qui montaient en grade. Et finalement, on ne savait même pas comment ils étaient. Je disais souvent, moi, je ne sais pas à qui je parle. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'handicapé. Ça se trouve, c'est un sourd et muet, puisque je suis en train de travailler sur un forum écrit. Et donc, on gommait complètement ces histoires de handicap, on gommait plein de choses. Et moi, j'ai trouvé ça assez puissant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est aperçu quand même qu'après ça, on a quand même eu besoin de proximité. C'est-à-dire qu'on a découvert que finalement, on était quand même aussi meilleur dans le numérique quand on se croisait physiquement, d'où l'idée des espaces de coworking.
Ce qui fait qu'il y en a autant, et tu en as présidé comme Akinum, hein, des réseaux justement ici numériques, et puis il y a le Node également, où tu as été l'un des principaux acteurs hein, de la création du Node. Ça, c'est quelque chose, justement, la communauté numérique ici aujourd'hui, qui est très forte, justement, c'est une communauté qui se retrouve régulièrement dans le numérique à Bordeaux, et il y a une vraie volonté politique aussi derrière aujourd'hui d'impulser cette communauté, parce qu'on voit qu'il y a des emplois. Et en même temps, ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'on a des géants d'Internet comme Google, comme Amazon qui émergent, alors qu'on avait cette utopie de départ d'être justement communautaire, de vendre un idéal démocratique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ce décalage qu'il peut y avoir entre l'utopie de départ, qui était de construire un monde plus juste, en donnant davantage aussi la parole aux citoyens. Et on s'aperçoit que, voilà, au final, on a des monopoles qui se sont créés avec, par exemple, Google, mais Amazon aussi dans un autre secteur. Qu'est-ce que toi, en tant qu'expert justement du domaine Internet, comment tu analyses tout ça?
Alors, il y en a environ pour 2h30 pour répondre à tout ça. Alors, je vais essayer de répondre à la question sur la démocratie. Ce que je crois, c'est qu'on a quand même plus de démocratie. Et effectivement, moi, quand j'ai décidé de faire cet ouvrage en numérique, j'ai réagi à l'époque au fait qu'il y avait à la télévision, quand on lisait la presse, une seule voix qu'on entendait, qui était une voix plutôt conservatrice, voire totalement réactionnaire, et qu'on pourrait identifier sous tous les gens autour de Zemmour. Et effectivement, je trouvais ça extrêmement choquant qu'on n'entende que ça. Alors, on l'analyse comme on veut, mais pourquoi on n'entendait que cette voix conservatrice à l'époque? qui nous expliquait, on va la résumer en faisant un gros trait, mais en l'occurrence, pour arriver à aller mieux, il faut qu'on applique les méthodes des 30 glorieuses. Ce que j'écris, moi, c'est on appliquerait donc aux 30 piteuses les méthodes des 30 glorieuses. Alors, je suis très mauvais en maths, mais je sais que ça ne marche pas quand on fait ce genre d'équation. Alors, on ne prend pas les mêmes choses étant égales par ailleurs, ça ne fonctionne pas, ce genre d'équation. Donc, l'idée, c'était de dire, mais finalement, pourquoi on entend cette voix conservatrice autour de Zemmour et pourquoi on n'entend pas les autres ?
D'où le thème, pourquoi
Alors, d'où le thème, c'est effectivement le titre « La chance française », c'est une réponse au suicide français. On pourrait dire, première raison, les journalistes sont des feignasses. Et ils ne considèrent que, ils ne prennent que les témoins qu'ils connaissent.
Il y en a plus pas partout.
Il y a des grands nombres, on va dire. Deuxième hypothèse, les voix qui ne pensent pas comme ce qu'on entendait, en fait, ne savent pas s'exprimer et ne peuvent pas s'exprimer ou ne veulent pas s'exprimer.
Ce que dénonçait notamment Bourdieu.
Et ce que moi, et c'est là où je dis, mais il y a l'édition électronique pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un truc à dire, dites-le. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on est tous responsables du fait qu'on n'entende qu'une voix. Si on a décidé qu'on n'était pas d'accord avec cette voix qu'on entend partout, il suffit juste de trouver les moyens de l'exprimer. Et les moyens existent. C'est-à-dire que l'édition électronique, pour prendre cet exemple-là, les web radios, pour prendre un autre exemple, sont des moyens de porter une parole. Et c'est là où je dis que quand on dit que l'édition a des difficultés, que le numérique va tuer l'édition, non, c'est une opportunité. Et c'est aussi pour ça que j'ai été voir François, que je connaissais, puisqu'il est dans le monde du numérique bordelais. Mais en l'occurrence, il monte une édition numérique. Une boîte d'édition numérique, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours intéressant. Il commence comme photographe. Je l'ai croisé quand j'ai créé ma boîte en 99. Photographe 360, je crois. Après, il travaille chez un e-commerçant bien connu dans la région. Et il finit par monter une boîte d'édition électronique. Donc, soit il est totalement fou. Soit il a un côté, il est peut-être complètement fou, mais soit il a un côté assez sympa. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est pour ça que moi je lui ai dit, mais écoute, moi j'ai un peu de contenu, j'ai mes réflexions de train, on va peut-être travailler un peu et puis on va réussir à en faire quelque chose d'un peu consistant. Et voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et donc l'idée principale, c'est, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez, vous avez le droit de l'exprimer. Et on se rend compte que les citoyens quand même arrivent aujourd'hui à dire des choses. C'est-à-dire que, on prend d'autres exemples, mais le fait qu'une enquête d'utilité autour de la LGV Sud récolte autant d'avis éclairés, intéressants, et qui soit repris après par les institutions, par l'institution qui est chargée d'animer ce débat, c'est quand même la preuve que le citoyen arrive à s'exprimer. On n'est plus dans le fonctionnement, mais que je ne rejette pas au moment où il existait, mais on n'est plus dans le fonctionnement où l'État avait besoin de développer des infrastructures, disait « je développe des infrastructures », les infrastructures étaient développées, tout le monde trouvait ça génial, et sujet terminé. Aujourd'hui, on sait que quand l'État ou la collectivité dit « je veux une infrastructure », on sait qu'il y a des citoyens qui vont à réfléchir, de trouver l'info, puisqu'elle existe, trois, l'analyser, et quatre, faire savoir qu'ils sont potentiellement pas d'accord.
Et c'est pareil sur les journaux, justement. Les journaux ont ouvert aussi leurs colonnes, mais numériques, au grand public, en leur donnant des espaces au début très importants, parce qu'au début, on trouvait, par exemple, les commentaires des articles, notamment sur Sud-Ouest, étaient à peu près à la même hauteur que le titre. Ce qui fait que quand on lisait un papier, on pouvait difficilement ne pas voir les commentaires. Donc il y a ce mouvement qui émerge, c'est ce qu'on appelle aussi le journaliste citoyen de plus en plus. Alors par rapport à tout ça, quels sont un peu les messages après que tu as voulu faire passer dans le livre sur cette chance française?
Il ne va pas arriver à le faire, mais je crois que vous allez l'autoriser à me tutoyer pour de vrai, parce que ça fait deux fois qu'il fait « vous tue », ça fait un peu bizarre, c'est le « vous tutoiement ».
Donc ça, c'est... Hein. C'est le conservatisme des précédentes animations. Et donc, sur ces fameux experts, justement, c'est toujours les mêmes aussi. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qu'on voit sur les plateaux télé Pourquoi on ne donne la parole sur les plateaux télé? Est-ce que c'est juste, comme tu le disais tout à l'heure, une question de forme? Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui s'expriment particulièrement bien? Ou est-ce que c'est parce que les journalistes sont feignants et reprennent toujours ce qu'on appelle les bons clients, les mêmes personnes? Comment t'expliques ça, toi?
Je crois aussi que ça rassure. C'est-à-dire qu'il y a sans doute toutes ces raisons, mais c'est aussi que ça rassure. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un mouvement où les gens... ça les rassure qu'on leur explique que mettre une blouse à des enfants au collège, ça va les rendre meilleurs et qu'ils apprennent mieux. Aujourd'hui, on est quand même dans cette idée-là. Je fais exprès de parler du collège parce que j'étais un peu inquiet parce que je trouvais que ça s'était un peu calmé quand même, le côté un peu réactionnaire. C'est bon, on est reparti pour un tour de manège avec la réforme du collège, puisque là, on les a tous vus à nouveau, toujours sur les mêmes sujets. Et moi, quand je veux faire un peu de provocation, et ça n'en est presque pas, je vais vous prendre l'exemple du latin. Très bon exemple, le latin. Le latin était donc une matière qui servait à comprendre la langue et comprendre les civilisations. Si on doit comprendre le monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est avec le latin qu'on va le faire? Moi, je réponds, on va peut-être plutôt prendre une autre matière qui s'appellerait le code informatique ou la connaissance des réseaux informatiques. Et on va dire, y a une spécialisation qu'il faudrait que tous les gamins aient aujourd'hui, c'est savoir un peu faire du code, savoir et connaître les réseaux. Puisque finalement, le monde a changé et on est entouré de réseaux informatiques. Aujourd'hui, la problématique, c'est de savoir comment fonctionnent ces réseaux, connaître effectivement que ces grandes entreprises... qui pose problème. Moi, je ne suis pas un fan absolu de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple. En fait, je suis beaucoup moins qu'un fan absolu, je les déteste. Je les déteste parce que là-dessus, on est très mauvais en France. C'est-à-dire qu'on adore les trucs gros. Voilà, les Français, on adore, c'est toujours incroyable, il faut toujours le truc gros, il a raison. Donc on se retrouve avec des entreprises qui ne paient pas leurs impôts, et qui font tout pour ne pas les payer, donc c'est des fraudeurs fiscaux, qui collectent la TVA sur des produits vendus en France pour des pays qui ne sont pas en France, qui sont en Irlande, et qui mettent à mal, en l'occurrence, des entreprises qui, elles, font bien leur job, et on est dans une de ces entreprises, sans aucune problématique par rapport à l'État, et même mieux, l'État et les collectivités les favorisent. Alors aujourd'hui, si vous prenez Google a installé un centre de recherche à Paris. Ça, les élus adorent. Je suis ministre du redressement productif. J'ai fait venir un centre de recherche de Google. Bravo. Il a réussi à convaincre les gens de Google. Alors celui-là, celui que j'ai cité, je crois qu'il parle un peu anglais. En fait, comment il a convaincu les gens de Google? Ils sont convaincus tout seuls. Ils ont pris un tableur, à Excel, parce que c'est notre marque, un tableur. Et ils ont fait une colonne, ils ont pris la colonne France, la colonne Pologne et la colonne Espagne, et ils ont vu là où le coût du travail était le moins élevé. Et en l'occurrence, c'est en France que ça passe. Comment ça passe en France? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le crédit impôt recherche, et que quand vous montez un centre de recherche en France, vous avez un crédit impôt recherche qui est calculé sur le nombre de chercheurs que vous employez. C'est-à-dire que non seulement Google ne paie pas d'impôt en France, mais en plus, je pense qu'on leur fait un chèque. On leur fait un chèque tous les ans qui correspond au crédit impôt recherche. Alors moi, je dis que c'est de la responsabilité des collectivités de dire, non, on n'accepte pas ça. L'État devrait ne pas accepter ça. Alors souvent, quand je dis ça, on dit, ah oui, mais c'est difficile de savoir quel est le chiffre d'affaires fait par ces entreprises en France. Alors moi, j'ai le moyen, qui est super simple, qui est un moyen d'État, qui s'appelle Tracfin, qui permet de regarder les flux financiers. Et il suffirait juste que l'État demande aux banques françaises de vérifier tous les virements et toutes les cartes bleues faites vers des entreprises comme Google, Amazon, etc. Et je pense que nous aurions le chiffre d'affaires généré en France dans la minute. Donc ça veut donc dire que l'État n'a pas envie qu'il s'en aille, parce qu'ils adorent ces entreprises-là.
Historiquement, comment tu l'expliques, justement, ce conservatisme aussi, et puis cette attirance uniquement vers les gros, parce que...
J'en sais rien, je pense qu'ils considèrent que ça les valorise. Je sais pas, un chef de cabinet dans un ministère de l'économie doit être valorisé parce qu'il a parlé avec un gars de chez Google, et qu'il sera beaucoup moins valorisé en parlant avec un patron de TPE de la région bordelaise.
C'est sûr que pour la presse, c'est beaucoup plus vendeur.
Mais même pour lui, ouais. Pour son ego.
Quels sont alors les réflexions que tu nous livres dans cet ouvrage à travers tes différents voyages en train.
Alors, j'ai un gros sujet sur l'éducation, parce que je suis aussi père de famille, et donc je me sens un peu concerné par ces sujets-là en ce moment. Et j'ai des enfants qui ne sont pas bons à l'école. Parce qu'il y en a une, parce que c'est la fille, elle est plutôt pas trop mauvaise. Mais j'ai deux garçons qui sont mauvais à l'école. Qui ont longtemps été mauvais à l'école, et ils commencent à devenir bons. Ils ne sont pas là. Et très rapidement, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que je crois que je les élève plutôt pas mal, qu'on leur parle à peu près normalement, qu'on leur fait lire des choses, qu'on leur fait visiter des expos, qu'on leur fait découvrir les petites bêtes dans la nature, tout ça. Et pourquoi ils sont mauvais à l'école ? Et donc, je me suis dit, mais c'est parce que sans doute que le système n'est plus adapté à leur fonctionnement. Et il y a un vrai problème sur l'éducation.
Sur les méthodes d'apprentissage. Donc
moi, je veux bien débattre. Hein. Je pense que c'est idiot, aujourd'hui, de vouloir injecter de la connaissance à des enfants qui ont accès à cette connaissance avec une tablette. Et en plus, ils sont super forts. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Nous avions un devoir maison avec mon fils de 3e. Nous avions, hein, parce que quand c'est des maths, c'est nous. Et donc, je me retrouve à refaire de la trigonométrie, cosinus, tangente, tout ça. Et donc, j'ai un petit problème, c'est qu'il faut que je me souvienne ce que c'est. Parce que je l'ai appris pareil, mais évidemment, je ne m'en sers pas tous les jours. Et donc, j'ai oublié. Donc, je me remets dans le bouquin, je regarde le devoir, etc. Et mon fils me tourne autour et trouve que je suis lent. Sachant qu'il n'a pas trouvé la solution lui-même. Donc, ça a été mignon, mais je vais m'y mettre quand même. Et au bout de 20 minutes... Il me tend sa tablette, il me dit « Ici, là, il y a le résultat. Ben, » Je suis « Ah ben non, ça c'est pas bien, non, passe-moi ça, je vais voir si j'y arrive quand même. » Et donc, je trouve le résultat très simple. Et il trouve, pas moi, il trouve, machin. Et c'était, il y avait 6 questions, il y avait que 3 questions. Je dis « Ah ouais, mais là, il n'y a que 3 réponses, il nous faut les 3 autres. » Pas de problème. 5 minutes après, nous avions les 3 autres. C'était donc un devoir maison qui venait des annales du brevet des années 2000. Et je me suis dit « Mais... il a trouvé la réponse, ça lui servira plus jamais. » Voilà. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on travaille le triangle de la 6e à la seconde ? Quel est le fantasme absolu des pédagogues de ce pays sur le triangle ? Bon, donc il y a quelques professions qui ont besoin du triangle. Est-ce que nous avons tous besoin du triangle ? Et donc là, nous arrivons sur le sujet d'après. Pourquoi devons-nous tous avoir le même niveau d'enseignement et d'éducation ? Je pense que Jean-Pierre Chevènement nous a un peu mis dans la panade avec ses 80% de classage au bac. Pourquoi ? Et donc maintenant, c'est le dogme. Hein. D'ailleurs, c'est toujours dans la nouvelle réforme. Il faut toujours que le plus de monde possible arrive au plus haut niveau.
Ce qui fait qu'on entend souvent que le bac ne vaut plus rien.
Et alors voilà, alors donc j'en ai un qui est au bac qui me dit « Tu sais, maintenant, le problème, c'est plus d'avoir le bac, c'est d'avoir une mention. » Je l'attends. C'est bientôt. Je l'attends. Voilà, donc l'éducation, effectivement, je pense qu'on a un vrai problème sur l'enseignement. Je sais que dans les écoles anglo-saxonnes, on n'a que 4 ou 5 matières. Nous, on doit en avoir 9. Il y a notamment une matière qui s'appelle les humanités, qui regroupe à peu près histoire, géo, théâtre, art dramatique, etc. Et puis surtout, on a un réel problème, c'est qu'on sort des gens et des jeunes qui ne savent toujours pas présenter une idée en public, on ne sait toujours pas faire ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous prenez n'importe quel jeune qui crée une entreprise, qui doit présenter un projet, on ne sait toujours pas présenter une idée en public, alors que n'importe quel Américain de 14 ans sait présenter un projet en public et embarque une salle sans aucun problème.
Ce qui est beaucoup travaillé après dans des écoles de commerce ou des grandes écoles, même Sciences Po.
Et c'est-à-dire qu'après, on se met à travailler après, ça oui. Après.
Mais une fois qu'on est déjà bon.
On ne sait pas chercher alors que l'information est disponible, donc on devrait apprendre à chercher. Voilà. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des cours de recherche d'information et des cours, effectivement, de mise en contexte. Effectivement, ça ne veut pas dire que la vraie difficulté, c'est à partir du moment où l'information est présente, bah, quelle est la source ? Est-ce que c'est une bonne source ? Est-ce que les résultats de cet exercice de maths sont les bons ? Oui, ce sont les bons. Je te félicite, mon fils. Tu as donc bien vérifié ton information, ça c'est bien.
Est-ce qu'il y a des pays où on apprend justement à coder ? faire du codage informatique aux États-Unis, par exemple. À partir de quel âge on apprend ?
Alors, on apprend à coder dans la plupart des pays anglo-saxons, il me semble, pas dans tous, mais surtout, alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas que l'éducation nationale française, puisqu'en fait, c'est des fondations qui poussent beaucoup ça. Vous avez des fondations qui poussent des logiciels et des plateformes où on peut apprendre à coder directement à la maison sans aucun problème.
Le problème, c'est que le modèle des fondations aux États-Unis, c'est que on crée des fondations une fois qu'on a de l'argent, les entreprises, et en France, on crée les fondations et après, on demande de l'argent.
Voilà, c'est pas le même régime fiscal.
Ce qui fait qu'on a en général des fondations qui ont très peu de moyens et qui n'ont pas véritablement les moyens de leurs ambitions.
Heureusement, les fondations américaines sont assez malignes et donc elles font tout traduire. C'est-à-dire que vous avez la Code Academy, me semble-t-il. Code Academy, c'est traduit en français. Et puis c'est pas mal d'essayer de faire un peu d'anglais, donc c'est pas grave aussi.
Comment on peut changer justement les. Parce que c'est un vrai changement de mentalité derrière au final. Comment on peut arriver à changer les mentalités, mais y compris au plus haut, par exemple pour les professeurs, ça veut dire aussi que culturellement, il faut leur faire comprendre que l'informatique est importante et que derrière, il faut mettre des formations dignes de ce nom en place et déléguer suffisamment d'heures dans la formation des enseignants pour qu'ils soient en mesure voilà, d'enseigner l'informatique et pas seulement une personne dans un établissement aux élèves plus tard.
Alors c'est l'informatique et les réseaux, hein. Enfin tout ce qui tourne autour, c'est la culture informatique, on va dire.
Et même la recherche, comme tu le disais tout à l'heure, de l'info, quoi.
Ce qui est impressionnant dans les organisations, c'est qu'en général, les gens sont à la maison très utilisateurs. Et donc je pense que les profs sont très utilisateurs. Mais en fait, dans l'entreprise ou dans leur organisation, en fait, ils ne savent pas l'intégrer, l'absorber. Ça, c'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire que vous discutez dans les entreprises, vous prenez employé par employé, ils sont tous à utiliser le mail, à vendre sur Internet parce qu'ils vendent sur le bon coin des trucs. Enfin bon, le e-commerce, la plupart des Français savent très bien ce que c'est. Hein. Tout le monde, beaucoup de gens ont vendu des choses sur Internet, ont su faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire avant de racheter quelque chose, je vends le truc précédent. Enfin, donc en fait, on s'aperçoit que l'individu sait faire les choses et plutôt. Par contre, on n'arrive pas à l'intégrer dans les organisations. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Parce que derrière, c'est une vraie question de l'égalité des chances aussi entre les élèves. Forcément, les élèves qui ont plus de facilité avec les outils numériques, qui ont des tablettes déjà à la maison, ce sont plutôt des CSP+, des.
Alors, sur le coup, je voudrais voir les études, mais je pense que maintenant, il n'y a plus de problématiques, notamment de smartphone. Quel que soit le. Enfin, je pense que l'abonnement téléphone est sans doute la chose la plus partagée, quelle que soit la classe sociale. Ça sera vérifié, mais j'imagine
après,
bien.
C'est l'utilisation qu'on en fait.
Et après, c'est l'utilisation qu'on en fait.
C'est-à-dire l'éducation à l'utilisation de.
Et donc, c'est pour ça que ce serait bien que l'école le fasse.
Et là, il y a encore un fossé justement qui est social derrière, quoi, hein, sur la façon dont on va utiliser ces nouvelles technologies.
Mais si on veut réduire les disparités sociales, on utilise quelque chose qui s'appelle l'école. Enfin, c'est quand même le job, sur le coup, de l'école. Donc, effectivement, si on doit considérer qu'il y a une problématique d'usage du numérique parce que des gens sont plus en avance. En l'occurrence, dans les CSP+, ils sont plutôt à freiner les gens. Hein, parce que je vous rappelle que sur Internet, il n'y a que des voleurs, des pédophiles et des gens très dangereux. Et que donc, il ne faut surtout pas aller sur Internet quand on est des gens de bonne famille. Donc, je ne suis pas du tout persuadé qu'il y ait autant d'usage que ça dans les bonnes familles, si on prend cet exemple-là. Et donc, c'est à l'école de faire de la formation ou de faire des choses autour du numérique.
Quels sont les premiers retours là, que tu as eu des premiers lecteurs par rapport justement à tout ce que tu évoques sur le conservatisme, sur les choses qu'il faut faire bouger en France pour faire avancer le pays? Quels sont un peu les retours des premiers lecteurs sur ces aspects-là?
Alors, un des retours, et qui est intéressant, c'est que je ne donne pas de solution. Et en fait, c'est un peu fait exprès. Parce que justement, je ne vais pas reprocher à des gens de nous asséner des choses en nous disant voilà comment il faut faire et en faisant la même chose de mon côté. Donc moi, je fais un constat, je me dis juste qu'on a un monde qui change et que pour l'instant, on est en train d'essayer d'utiliser toujours les mêmes méthodes dans ce monde qui a changé. Mais après, je pense que c'est de la construction par les gens eux-mêmes. C'est vraiment à tout le monde de prendre en main son destin en essayant. Alors, ce que je vais dire, c'est que je pense que ce n'est pas en se repliant sur soi qu'on va y arriver. Ce n'est pas en mettant des clôtures autour de sa maison qu'on va y arriver. Ce n'est pas en expliquant que ce n'est pas bien que les jeunes s'expatrient parce que quand même, c'est du cerveau français qui s'en va. Moi, je pense que les voyages forment la jeunesse et que vraiment, s'ils ont envie de se barrer, mais qu'ils se barrent vite. S'ils ne nous demandent pas trop d'argent pour financer les voyages.
C'est comme ça qu'on découvre d'autres cultures, qu'on revient.
Voilà, c'est comme ça qu'on découvre. Aussi, voilà, c'est comme ça qu'on découvre les choses. Et effectivement, il faut absolument. Enfin, on peut pas. Là, j'ai lu ça. C'était une étude de la CCI de Paris. Ils sortent une étude et il y avait. Ça a été repris, je crois, dans le Parisien. Et l'article était. Enfin, c'était horrible. C'était du style. Je sais plus. 5% des jeunes Français quittent le pays. La fuite des cerveaux. La fuite des complots. J'espère bien qu'ils vont continuer à partir, qu'ils vont continuer à découvrir. Et de toute façon, un jour, ils reviendront ou ils ne reviendront pas, mais on s'en moque. Enfin, bon, c'est peut-être d'autres qui vont venir. On n'est pas à l'abri qu'ils soient plus intelligents que nos Français. Enfin, je ne comprends pas très bien pourquoi il faudrait absolument les garder chez nous. Voilà.
Quelles sont pour toi les autres priorités, justement, pour, au-delà de l'éducation, pour réformer la France ? C'est pas un programme électoral. Hein,
ouais. Je sais pas si je vais être assez légitime pour dire ça. Mais
il y a ta famille en plus qui est là. Hein.
Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est proximité et communauté. C'est-à-dire que je crois que la réponse, il y a une vraie réponse dans la proximité, dans le communautarisme ou dans la communauté, pour pas dire communautarisme, ça fait peur, dans la communauté. Une communauté, c'est pas obligatoirement des gens de même religion ou des gens de même milieu. Une communauté, ça peut être totalement divers et multiple. Et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait que les décisions viennent plutôt du terrain, plutôt qu'elles viennent d'en haut. De toute façon, aujourd'hui, on a une chance, c'est que normalement, les décisions qui viennent d'en haut devraient arrêter de venir, puisque en haut, on n'a plus d'argent. Avant, c'était bon, l'État avait de l'argent, décidait des choses, faisait un programme, il payait, donc on n'avait pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, on est encore dans le moment un peu bizarre où ils disent il faut faire, mais on n'a plus d'argent. Une espèce de moment où ils ont encore le cerveau, mais ils n'ont plus le portefeuille.
Ils en ont encore un petit peu.
Ouais, mais ils le demandent beaucoup aux autres. Et donc maintenant, on va se retrouver. Alors c'est un vrai changement hein, pour notre République une et indivisible. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir assumer qu'elle est divisée, notre République, notre État, notre nation. Et je reste persuadé que ça fonctionnera sans doute très bien, sans des frontières administratives. Moi, la réforme territoriale, je disais qu'il aurait fallu l'appeler la réforme de la proximité.
Qu'est-ce qui reste d'ailleurs pour toi de Charlie ? Des événements, des de manifestations après Charlie.
Alors c'est les dernières pages du livre ont été écrites le 11 janvier au soir. C'est un article que j'avais fait sur un blog, puisque en fait il y a des réflexions dans le train et puis il y a des réflexions sur un blog où j'écris pas de la même manière, assez étonnamment. Je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout la même réflexion, enfin la même façon d'écrire. Et effectivement, je doute un peu sur. C'est quoi l'esprit Charlie. Et effectivement, je ne suis pas persuadé que les gens aient voulu, en descendant dans la rue, défendre Charlie Hebdo. Je défends que les gens, j'espère que les gens se sont dit, ah ben tiens, on va enfin se réveiller. Et on va enfin arrêter d'accepter que les choses se fassent et se disent sans nous. Et on va se mettre à prendre les choses en main,
être
acteur de nos destins.
Et pour toi, il reste quoi là de cette volonté d'être acteur de notre destin? Il en reste quoi quelques mois après? Tu sens qu'il y a encore quelque chose ou c'est complètement oublié? Il y avait un vrai élan collectif, on parlait de valeurs, la République, mais pas seulement.
On peut espérer qu'il en reste des choses, et donc au niveau local, ou en tout cas dans les petites communautés. Alors effectivement, je pense
autour de toi, dans les réseaux ici, tu sens
qu'il y a... Oui, et puis des gens disent maintenant, c'est une expression. C'est-à-dire que ça, c'est Charlie, ça, c'est pas Charlie. Voilà, bon, après, il va falloir faire gaffe à la labellisation, mais...
Et sur Internet ?
Ça, par exemple, c'est super Charlie d'amener son enfant à une conférence. Et je rigole pas, je trouve ça super. J'adore. Non, mais je vous assure, je trouve ça vraiment génial. Ah, il s'appelle Charlie ? Non, je s'appelle Joseph, celui-là, je crois.
Et sur Internet, il reste un esprit ou pas ? Il y a des choses qui ont...
Un esprit des dinosaures, un esprit d'avant.
Ouais. Mais on est à la croisée des chemins, quand même, non ? Sur Internet, aujourd'hui. Et par rapport aux géants d'Internet et au fait que l'Internet est de plus en plus commercial aussi. On utilise de plus en plus Internet pour des fonctions commerciales. On s'y perd un peu par rapport à l'esprit originel. Donc, est-ce que toi, tu as le sentiment qu'on est à la croisée des chemins ?
C'est pas une croisée des chemins, c'est que c'est normal. C'est-à-dire qu'on part d'un Far West, d'un truc où il n'y a que des gens qui une sorte de petite communauté, et puis ça devient intégré auprès de tout le monde. Donc c'est normal que ça n'ait plus du tout la même fonction, mais moi je suis persuadé qu'il y aura d'autres lieux et d'autres espaces qui se créeront, où d'autres gens vont aller chercher, innover, se retrouver, et puis quand ce sera considéré comme bien par d'autres, les autres les rejoindront.
D'autres réseaux sociaux,
ou autre chose, j'en sais rien. Ouais. Ça se trouve, c'est... Enfin, moi, je dis souvent que ça reste toujours des outils. Hein. Si le prochain truc qui est considéré comme super bien par une partie des gens, c'est de jouer des congas dans les parcs, et on se mettra tous à jouer des congas dans les parcs.
Si on doit retenir un message...
J'espère pas que ça arrivera, ça, parce que... Alors...
Si on doit retenir un message en particulier de ton livre, quel est-il ?
C'est qu'on a... On est plutôt dans une période hyper chanceuse. Alors c'est effectivement le principe, c'est de dire, on est quand même, plutôt que de dire qu'on est dans le risque, dans le danger, dans un monde qui va tous nous faire disparaître dans d'atroces douleurs, qui va tuer tous nos emplois, qui va faire que nos enfants seront des ânes battés, on est dans une période de chance. C'est-à-dire que c'est à nous de la saisir, on est dans de l'opportunité, on a la chance de vivre un monde nouveau. Et donc, on a plutôt une vraie chance de vivre ce monde. Il faut prendre ça comme une chance, ce changement de monde. On a la chance d'accéder à tous les contenus, on a la chance d'accéder au savoir, on a la chance d'avoir de la communication hyper simple. C'est une vraie chance. Moi, je comprends pas comment.
On a toutes les cartes en
main. Mais je comprends pas comment on peut arriver à trouver qu'on est en train de souffrir. Enfin, je suis toujours très étonné de ça, qu'on arrive à avoir comme idée principale que, le coup du suicide français, l'autre, il est allé quand même bien fort quand même. Alors qu'on est plutôt dans une possibilité, mais des possibilités énormes. C'est-à-dire que il y a une conférence TED. Les conférences TED, c'est des TEDx d'ailleurs, parce que c'est à Paris. Ces conférences qui sont conduites un peu partout. Il y en a à Bordeaux, où il y a un Français qui disait que les Français parlent de risque et les Américains disent prenez votre chance. Et effectivement, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne notre chance. Alors effectivement, ça fait peur. C'est plus les mêmes fonctionnements. Ça veut dire qu'il faut réinventer plein de choses. Il faut, ça fait bizarre de devoir se dire comment vont vivre nos enfants après, etc. Mmh. Ça fait bizarre de se dire je vais avoir non pas un seul métier mais quatre. Ça fait bizarre de se dire j'aurai pas trois employés, un employeur mais trois, mais peut-être que je serai mon propre employeur. Et puis peut-être un jour je serai pendant un an je ferai rien. Peut-être que je me mettrai à fabriquer des choses avec mes mains. Effectivement, ça paraît moins stable comme ça que.
Mais plus riche.
Mais qu'est-ce que c'était chiant quoi. Enfin, sincèrement. Bonjour, je viens donc de faire une école et je suis avec mes camarades de promotion qui ont fait la même école que moi, qui ont le même travail que moi, qui sont dans la même entreprise que moi, qui réagissent de la même manière que moi. Mais quel ennui. Enfin, que...
C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les sociétés changer régulièrement les managers, soit de poste ou géographiquement de lieu, pour éviter justement cet ennui et tomber dans une sorte de monotonie. Quoi.
Ouais, je préfère les sociétés qui proposent à leurs managers ou employés de les aider à créer des entreprises ou à créer d'autres activités plutôt que de les déplacer un peu brutalement parce qu'ils trouvent qu'ils commencent à faire toujours la même chose. Mais bon, il y a aussi des entreprises qui développent des concepts d'intra-entrepreneurs et qui effectivement sont à mon avis très intéressantes.
On voit des grands groupes maintenant qui commencent à mettre en place ce type de politique justement avec des incubateurs qui sont dédiés à des salariés qui voudraient créer des projets, c'est-à-dire que ils restent payés par l'entreprise, mais sur leur temps de travail, on leur libère justement leur journée, sur le temps nécessaire, et puis on les aide à incuber leurs projets.
Exactement. Alors, ce qui est intéressant, alors donc là, on est effectivement dans un début de bouleversement, c'est-à-dire que la grande entreprise, aujourd'hui, la grande organisation en général, a une problématique par rapport à l'innovation, c'est-à-dire que le monde va un peu vite pour elle. Les changements vont un peu vite. Aujourd'hui, un process industriel, pour, si vous avez travaillé dans l'industrie, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, un produit, on mettait 3 ans pour faire le produit. 3-4 ans, c'était le temps normal, réflexion, conception, mise au point, test, retour des tests, changement un petit peu, et après production et vente. Aujourd'hui, les industries sont obligées de faire un nouveau produit tous les 6 mois. J'ai discuté avec le patron de Parrot qui me disait, moi je suis obligé de faire un nouveau produit, donc c'est quand même une entreprise intéressante puisqu'ils faisaient des systèmes embarqués pour l'automobile et puis maintenant ils font des jouets pour enfants sous forme de drone. Ils ont fait évoluer leur modèle et il me disait qu'il était obligé de sortir un nouveau petit drone tous les 6 mois et qu'effectivement c'était complètement choquant par rapport à leur métier. Et que donc, alors je vous le donne comme une information, les premiers testeurs sont les premiers clients. Donc si vous voulez acheter un drone, attendez toujours quelques semaines, le temps qu'il y ait un peu de retour, parce qu'effectivement, on coupe le temps du test, oui, qui était normalement fait en usine, et on le fait tester par les consommateurs.
Et alors, pour poursuivre, justement, le problème, c'est que les grands groupes, aujourd'hui, en fait, n'ont pas l'agilité en interne au niveau de l'organisation nécessaire pour... créer aussi rapidement tous les 6 mois des produits. Donc ils font appel à des startups où ils comptent sur la créativité de leurs salariés en les aidant à travers ces incubateurs. Voilà.
Donc là, on est donc effectivement dans une évolution puisqu'il y a une dizaine d'années, les grands groupes achetaient les startups pour les tuer. C'est le premier réflexe, un certain nombre de grandes entreprises que je ne citerai pas, qui ont tué un certain nombre de startups avec des produits assez innovants, pour éviter que soit que ce soit repris par un concurrent, soit que ça bouleverse un peu l'organisation. Aujourd'hui, on est dans la phase 2, qui est que le grand groupe va incuber la start-up pour l'aider à grossir. Et la phase 3 sera que la start-up se développe toute seule, sans le grand groupe.
On n'y est pas encore.
On va y arriver, là.
On est dans une phase, en tout cas, où le grand groupe a besoin de la start-up de manière indispensable.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un gros animal qui a besoin d'être agile, et comme il ne peut pas être agile, il va envoyer des petits... Alors, je parle beaucoup des bactéries, en général. Voilà. Certaines personnes m'ont beaucoup entendu dire cette chose, mais j'aime beaucoup cette
C'est en cela qu'il y a une chance française, justement. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un qui a des projets innovants, originaux, qui peuvent apporter une vraie valeur ajoutée, va émerger finalement beaucoup plus vite, peut-être qu'il y a quelques années, parce qu'on est dans un monde où on a un fort renouvellement des produits, fort renouvellement des marchés, qui bougent en permanence, et donc on a besoin de ces personnes-là, alors qu'auparavant, on avait peut-être
On a non seulement besoin, mais on s'est obligé. C'est-à-dire qu'il y a un éditorialiste du New York Times qui s'appelle Friedman, qui a écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait « Le monde des plats ». Et sa thèse, c'est de dire, finalement, on a abaissé toutes les distances et tout le temps sur la planète. Aujourd'hui, j'ai une idée à Bordeaux. Si je ne la mets pas en application aujourd'hui, à Taïwan, demain, quelqu'un peut la mettre en application, aura trouvé le bon financier, aura trouvé les bonnes personnes pour la réaliser, et j'aurais perdu. Donc à partir du moment où on part de ce principe que le monde est plat, effectivement, il faut dire, j'ai une idée, j'essaie de la mettre en application. Et là, on arrive toujours avec notre problème un peu français, qui est qu'on ne supporte pas l'échec. Donc pourquoi les Français ne montent pas autant d'entreprises alors que, soi-disant, on a plein d'idées et pas de pétrole, donc on devrait normalement créer plein de boîtes en ce moment? Parce qu'en fait, on a un deuxième problème, qui est qu'on a On est très, très dur avec les gens qui ont raté. Et donc, le problème de la peur de l'échec, c'est que c'est la peur de prendre le risque. Le jour où on aura compris qu'un échec, c'est quelque chose qui permet de progresser, on ne va pas faire des images un peu faciles, mais l'enfant qui apprend à marcher, qui tombe et qui se redresse, en fait, s'améliore. Le scientifique qui fait une expérience et qui rate, le fait que l'expérience soit ratée, c'est une information qui lui permet de progresser pour faire avancer son expérience. Les musiciens vous expliquent qu'une fausse note peut, certains dans le jazz disent qu'il n'y a pas de fausse note, mais simplement une autre direction qui est en train d'être prise. Donc oui, il faut qu'on travaille sur cette notion d'échec. Il faut absolument qu'on accepte que les gens ratent et que ce n'est pas obligatoirement de l'escroquerie. Rater une entreprise, ce n'est pas obligatoirement le fait d'un escroc, et ni d'un mauvais d'ailleurs. Une entreprise ou un projet qui rate, ça peut être le fait de plein de choses, qui sont un marché qui s'écroule, des avions qui vont se planter dans des tours et qui cassent un marché du tourisme, par exemple. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui font que on a échoué, non pas parce qu'on a été mauvais ou voleur, mais parce qu'il y a des paramètres qui n'étaient pas réunis.
Il y a toujours une part de chance dans la réussite, justement.
Et surtout, alors oui, effectivement, il vaut mieux avoir de la chance plutôt qu'être malchanceux. Sauf quand on écrit dans le train et qu'à chaque fois, il y en a un sanglier qui traverse devant le train, ça vous fait gagner une heure d'écriture en plus. Mais
il y a combien d'animaux qui sont...
Mais il y a plein d'animaux, ça aussi, c'est très étonnant, hein, quand même, le fait que les voies ne soient pas protégées plus que ça.
Oui, et puis en période de crise aussi, on est, c'est là qu'on innove le plus au final, quand on regarde l'histoire. C'est dans ces périodes-là où on est forcé à créer, à innover, et on est dans cette période aujourd'hui où voilà, on va avoir moins de sous, entre guillemets, de l'État, et donc par conséquent, tout le monde est en train de réfléchir, de poser des réflexions stratégiques, y compris dans les collectivités, pour voir comment on peut essayer de faire aussi bien, sinon mieux, mais avec beaucoup moins d'argent.
Oui, puis surtout, on a les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui a envie de monter un projet dans le numérique, il n'a plus besoin d'avoir beaucoup d'argent pour le monter. Il va y avoir... On va sans doute rentrer dans une manière de fonctionner par expérimentation. Ça aussi, c'est assez nouveau. C'est-à-dire dire, j'ai une idée, je la teste, elle ne marche pas, je la fais évoluer, et si vraiment elle ne marche pas, j'arrête. Ça aussi c'est assez bizarre, enfin en tout cas c'est absolument pas une réflexion d'ingénieur. L'ingénieur, on lance un programme, le programme va au bout, l'objet ne sert jamais à rien, mais le programme a été au bout. Aujourd'hui on a des gens qui ont il y a des fois l'objet sert à quelque chose et réussit, hein. Attention, je dis pas que les ingénieurs font que des choses mal, de très bons ingénieurs ont fait rien. Et donc, on se retrouve avec des façons de fonctionner qui sont... par exemple, on parle beaucoup de l'utilisateur. Ça aussi, c'est assez nouveau en France, assez étonnamment. Dans les écoles de conception, on parlait rarement de l'utilisateur. Aujourd'hui, on donne beaucoup de pouvoir à l'utilisateur, mais on ne donne pas de pouvoir au client, on donne pouvoir à l'utilisateur. L'utilisateur peut être multiple. Ça, c'est assez intéressant, de renverser la façon de concevoir des choses. Et de dire, je parle de l'utilisateur, et j'essaie de voir ce qu'il va me donner comme information. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout écouter. Hein. Je crois que c'est Ford qui disait, si j'avais demandé... au client de la Ford T, qu'est-ce qu'ils voulaient pour aller plus vite, ils auraient dit un cheval plus puissant. Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas qu'on pouvait construire des voitures. Mais effectivement, on est quand même plutôt mieux si on commence à prendre en compte l'utilisation.
Eh bien, merci à tous.
Ben voilà, merci. Bon, merci à vous.